Et tout cela,
Française, Français,
c'est grâce à vous.
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA espionnait aussi l'Union Européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
La présidence de la République, ça n'est pas un radio-crochet.
Ça, c'est une autre façon de faire de la politique.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Alors, quoi de neuf?
La République, c'est moi, c'est moi.
Françoise Verna pour La Marseillaise.
Et Olivier Nautal pour Divergence.
Eh oui, Divergence et FM sont encore là pour une nouvelle émission qui s'appelle Quoi de neuf ? Une heure avec un, une ou des invités. C'est diffusé le lundi à 18h et rediffusé le mardi à midi. C'est à écouter évidemment sur le 93.9 si vous êtes dans votre voiture par exemple ou chez vous. Mais vous pouvez aussi vous brancher sur le site de Divergence FM et là vous l'avez en streaming. Comme on dit en français. Alors c'est aussi, et c'est la nouveauté de cette émission qu'on anime Françoise et moi, c'est aussi à retrouver dans la Marseillaise Hebdo Gare Hérault. Tous les vendredis, suivant la diffusion, et bien sûr en podcast sur notre site de la radio qui a été refondé il n'y a pas longtemps et qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, ils sont avec une femme très occupée qui cependant a accepté de venir s'asseoir face à un micro pour dialoguer avec nos intervieweurs, bien sûr, mais aussi, pour par-delà, avec nos auditeurs et nos lecteurs. Alors, bienvenue à Patricia Weber.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Alors, vous êtes la vice-présidente déléguée à la solidarité aux personnes et à l'autonomie au conseil départemental de l'Hérault et vous êtes membre aussi de la commission permanente, je crois.
Tout à fait.
Ah, je ne me trompe pas, vous voyez, hein, déjà, il n'y a pas d'erreur. Hein. Alors, Patricia Weber était venue en novembre 2021. À cette époque, elle avait répondu aux questions croisées de Jean-Pierre Foubert et de moi-même. Place à la parité maintenant. C'est Françoise qui a succédé à Jean-Pierre pour former un nouveau binôme. Alors Patricia connaît le binôme, puisqu'elle en fait partie d'un autre binôme, élu celui-là dans le canton de Latte, avec Cyril Meunier, le maire de la ville qui porte le nom du canton. Mais le territoire est bien plus vaste que la commune de Latte. Hein. Il est formé des communes de Laveyrune, Pérol, Saint-Jean-de-Védas, énorme. Et de Juvignac, que Patricia connaît particulièrement bien pour en être conseillère municipale, faute d'en être madame le maire. Alors il a suffi de 18 voix à son adversaire pour obtenir une majorité absolue lors d'une élection rocambolesque. Bon, c'est ainsi. Mais du passé, faisons un peu table rase, Patricia Weber a de quoi s'occuper et elle a dû occuper toutes ses journées, me semble-t-il. En juin 2021, après une large victoire avec plus de 65% des bulletins exprimés, elle retourne donc au conseil départemental où elle siège depuis fort longtemps. Hein, et elle était élue la dernière fois en mars, alors départemental en mars 2015. Tout mais vous étiez fait. Déjà au conseil général.
Oui.
Alors donc, ça fait un certain temps, on aura l'occasion de parler un peu de votre parcours. Alors, ses fonctions sont immenses et sa responsabilité est en première ligne sous la responsabilité de la présidence renouvelée de Kléber Mesquida. Un budget colossal à gérer, de l'ambition de s'occuper de toutes et de tous de la naissance à la fin de la vie. Vaste programme. Alors, nous sommes impatients de l'entendre dire ce que représente ce « entre guillemets travail » qui ressemble plus, à mon avis, à un sacerdoce, à une mission, à une passion. Car contrairement aux idées reçues, et il y en a, et aux fausses informations que l'on nomme désormais en français les fake news, être élu avec de telles responsabilités ne rend pas la place très bonne, ni très lucrative. Et il faut certainement un sens du devoir, il faut une envie de servir les citoyens, les concitoyens, une haute opinion de la politique, celle qui se veut œuvrer pour la cité, pour s'adonner à ce « entre guillemets sport » à très haut risque. Alors, une heure pour en parler avec Patricia Weber. Alors, nous sommes donc avec Patricia Weber, on a fait son portrait très rapidement, hein, c'est pas trop d'erreurs, c'est ça en gros, c'est le sens du devoir qui vous anime.
L'engagement,
politique au sens
politique,
noble du terme.
Depuis toujours.
Et depuis fort longtemps. Alors Françoise Hérna, à mes côtés, va attaquer donc le programme. Alors le programme, toujours Patricia Weber, on vous le dit toujours, on n'est pas obligé de rester dans un carcan. Hein. S'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, vous avez le droit de le dire.
Oui,
alors, Françoise Vernat.
Oui, j'aimerais rentrer un peu dans le vif du sujet, puisque vous avez une grande responsabilité, troisième vice-présidente donc, aux solidarités et à l'autonomie. Le 17 janvier, le président du département, Kléber Mesquina, a fixé, je cite, le cap sur un horizon solidaire. Alors concrètement, comment cela va se traduire? Je sais que le conseil départemental est en plein exercice de construction de son budget 2023.
Tout à fait. C'est un budget qui va atteindre les 2 milliards d'euros. En ce qui concerne ma délégation aux solidarités à la personne hors RSA, c'est un budget qui va tourner autour des 644 millions d'euros.
C'est déjà un petit budget, hein, 644 millions d'euros, c'est énorme.
C'est énorme.
Et puis donc, on a bien compris, vous ne vous occupez pas de la partie RSA qui est très importante.
Justement, vous allez nous expliquer comment se découpe un petit peu le volet solidarité qui représente 67% des dépenses de fonctionnement du département de l'Hérault et des départements français
budget
en général.
Numéro
budget numéro 1. Comment vous ne pouvez pas porter tout.
Non,
vous-même. Hein,
non, et puis c'est lourd. Hein. Enfin, il y a beaucoup de responsabilités, un travail avec les directions, avec les associations, avec les partenaires. Donc, il est plus intéressant et efficace, à mon avis, de répartir les tâches entre les élus. Et donc, il y a au niveau des solidarités trois élus. Donc, pour l'insertion, Sylvie Pradel.
Dans l'insertion, c'est ce qu'on...
C'est le RSA, l'accompagnement, la formation.
Formation professionnelle.
Alors que c'est la région qui fait la formation, mais il y a un accompagnement des bénéficiaires.
Une orientation, je dirais, des bénéficiaires vers les bons... frapper aux bonnes portes.
Une attention, une belle attention. En ce qui concerne l'enfance et la famille, c'est Véronique Caluet-Barrisolo. Là, c'est aussi un domaine, ça concerne l'enfance, les enfants confiés, les mineurs non accompagnés. Donc, c'est une délégation aussi avec beaucoup de responsabilités. À partir du moment où il y a de l'humain, il y a un engagement, une responsabilité. Et puis, donc, en ce qui me concerne, ce sont les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les établissements. Je préside un établissement, un EHPAD. Il y a également tous les établissements. Donc, c'est l'accompagnement à domicile et l'accompagnement en établissement.
Donc c'est aussi un grand volet de l'action du département.
Oui, nous sommes chefs de file de l'action sociale.
Tout à fait.
Et il y a toute l'action sociale qui est l'aide au logement.
Aux familles, on va dire.
L'aide aux familles, nos structures sur les territoires, maisons départementales des solidarités pour l'accueil de proximité. Voilà, premier accueil.
Et c'est grand le département de l'Hérault, hein, pour ceux qui ne le savent pas.
Oui, je le parcours actuellement.
Quand on va dans les Hautes-Cantons, cher monsieur Mesquida, ça fait du chemin déjà. Hein.
Oui, si vous le permettez, effectivement, ce qui concerne le handicap, Kléber Mesquida m'a confié sur le premier mandat l'autonomie avec la formation personnes âgées. Sur le second mandat, j'ai toute l'autonomie, c'est-à-dire que je vais intervenir sur le secteur des personnes en situation de handicap. Pour mieux connaître ce secteur, donc je suis en immersion depuis mon élection à la maison départementale de l'autonomie qui intègre la maison départementale des personnes en situation de handicap. Mais il faut également connaître les associations qui sont très nombreuses, les structures et donc connaître le département, puisque je fais tous les mois, j'ai un programme de visite des établissements. Je vais à la rencontre des établissements pour vraiment bien comprendre ce qui se passe au plus près des personnes.
Et tout cela, tout ce que vous nous décrivez, c'est le fruit d'un grand mouvement décentralisateur aussi.
Tout à fait.
Pour que nos auditeurs comprennent qu'aujourd'hui, les collectivités locales sont chefs de file sur des secteurs extrêmement importants de la vie quotidienne. Hein, quand on parle de l'autonomie des personnes âgées, quand on parle de handicap, c'est des questions qui sont aussi nationales. Moi, j'avais une question sur... Alors, on le sait, est-ce que vous pensez que l'État est toujours présent? Parce que les besoins de solidarité sont de plus en plus importants. Le nerf de la guerre contre la pauvreté, contre les situations et pour la prise en charge correcte et digne des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, c'est l'argent. Mais l'État central, au niveau des dotations, il y a quand même un phénomène. Je suis allée regarder un peu les chiffres, notamment de l'adresse, hein, c'est le ministère des Solidarités. Il y a eu un recul des dotations depuis 2013, une baisse de 30% à peu près des dotations d'État. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'irréversible ou qu'il y a encore à batailler au niveau des collectivités pour que l'État soit véritablement le partenaire oui. qu'il doit être à vos oui. côtés?
Vos mots sont justes. Mmh. Il y a bien des dotations qui ne sont pas à la hauteur des engagements, des réalités de terrain. Et alors, pour les auditeurs, je voudrais bien rappeler que le département, au niveau des établissements, c'est le volet hébergement. Le volet sanitaire dans un hébergement, c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé. Oui. Il y a également, donc, dans un EHPAD, il y a le personnel d'animation, les cuisiniers également, tout ce qui est accompagnement, hébergement. Donc le département y est. Mais pour tout ce qui est sanitaire, donc là il y a vraiment des soucis. Hein, et nous avons vraiment besoin.
Entendu parler,
hein. Et le manque de personnel au niveau sanitaire va enclencher un accompagnement. Il faut être vigilant à la qualité. Il faut qu'il y ait des personnels. Et on a aujourd'hui un problème donc de manque d'attractivité de ces métiers. Mmh. On a du mal à recruter les ASH, les aides-soignants, les infirmières. Beaucoup de turnover. Donc c'est bien compliqué.
Ça relève de. C'est pas votre responsabilité le recrutement là.
Non, mais comme je préside un EHPAD, je suis vraiment dans le...
Vous êtes obligée de...
Ah oui, et puis...
Pour que ça tourne, il faut qu'il y ait le personnel.
On se sent concerné, on ne divise pas une personne en deux, hein, quelque part. Ouais. Donc, je les reçois, je rends visite, et donc on se rend bien compte qu'il y a ce manque d'accompagnement. Et nous aussi, au département, au niveau des travailleurs médico-sociaux, on voit bien qu'il y a un manque d'attractivité là aussi. Et à l'IRTS, qui forme des assistantes sociales ou assistants sociaux également. Mmh. Donc, c'est là-dessus, il faut vraiment rendre plus attractifs ces métiers.
Et puis, on le constate aussi dans les établissements spécialisés pour les personnes en situation de handicap, et notamment mentaux, c'est très dur. Les IME, les 1, etc. C'est très dur parce que les conditions de travail sont difficiles et la rémunération est vraiment très basse.
Aussi, également. Mmh. Donc, tout cela, nous en sommes convaincus et nous faisons remonter au niveau du département, par motion, par discussion, par rencontre. Mais... de mon côté, on ne lâche rien.
Oui, alors, vous êtes arrivé en pleine, on va dire, tempête hein, au niveau des EHPAD. Il y a eu des enquêtes assez retentissantes. Comment est-ce que vous avez aussi un regard sur tout ce qui est contrôle, puisque l'État a demandé aux ARS de mener des contrôles
inopinés
pour se rendre compte de la situation dans les EHPAD, si tout était, puisque c'est quand même l'argent aussi public qui finance notamment les établissements privés. Quel est votre rôle au niveau de ces contrôles qui s'avèrent nécessaires.
Hein. Il y a deux contrôles au niveau des EHPAD et notamment habilité à l'aide sociale suivi par le département. Il y a un contrôle ARS et un contrôle du département. Donc il y a un double contrôle. Après, je préside un EHPAD, comme je vous l'ai dit, de 150 lits. C'est compliqué, mais il faut y passer du temps, il faut aller voir. Il y a les conseils de vie sociale dans chaque EHPAD qui permettent aux familles également au personnel de s'exprimer. Quand on en arrive à des situations très, très compliquées, c'est qu'il y a manqué une étape, un dialogue. On ne doit pas arriver à des situations telles qu'on les a connues. Ça n'est pas normal, parce qu'à l'intérieur de l'EHPAD, il y a des instances d'échange. Et il y a des sites où on fait des alertes au niveau du département et de l'ARS. Donc, les informations préoccupantes sont transmises. Oui, absolument. Donc, on ne doit pas arriver à ce type de situation très grave. Il faut que ça soit signalé avant.
C'est-à-dire que on a vu que le débat était est-ce que on doit considérer les personnes âgées entre guillemets comme des marchandises comme
Non, absolument.
C'est ça un peu le débat.
Une question de société qui nous concerne tous, puisque il y a un vieillissement de la population et l'enjeu c'est de vieillir en bonne santé et quand on est en moins bonne santé avec le grand âge de pouvoir être accueilli correctement. C'est des enjeux qui sont au cœur aussi de votre délégation.
Je suis au cœur de tout cela. Donc, il y a les personnes au niveau du département, par exemple, il y a en avance en âge. Et les personnes âgées de plus de 60 ans. Moi, je vais avoir 64 ans, donc je suis à l'aise avec l'âge là-dessus. Préfèrent rester à domicile. Il y a aussi le coût des établissements qui est assez important. Et avec la crise sanitaire, économique, avec les augmentations énergétiques, ça va avoir des impacts. Voilà. Donc, une personne va vieillir plus longtemps chez elle. Elle va être accompagnée par le département. Pour l'aider dans les gestes du quotidien, il y a la mise en place de l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie. Donc ça, c'est un fort budget chez nous également. Les personnes font une demande soit sur le site internet qui a complètement été réactualisé au 1er juillet. Je m'en suis vraiment occupée. Pour que ça soit simple et pour que les personnes les plus éloignées du territoire héroleté puissent avoir des facilités pour remplir leur dossier. Sachant qu'on a des maisons départementales de la solidarité qui sont vraiment sur tout le territoire pour que ça soit facilité.
C'est une question que je voulais vous poser. Là,
oui, justement. Tout à fait. Donc, on a, sur le précédent mandat, avec l'Hébert Mesquida, il y a eu une réorganisation. Nous avions, par exemple, pour la MDPH, pour les personnes en situation de handicap, nous avions le site à Montpellier. Eh bien là, il y a plusieurs sites qui en va au plus près. Et il y a même des associations de personnes en situation de handicap qui nous accompagnent de façon bénévole pour aider, qui tiennent des permanences le territoire héroleté. Et je les remercie, tous ces bénévoles.
Toujours pareil, pour que la personne soit renseignée.
Renseignée, oui. Éviter qu'elle se déplace jusqu'à Montpellier.
Par exemple, j'ai une question simple. Oui. Je vis dans une commune de l'Hérault, pas forcément dans la ville-centre ou... et j'ai besoin de faire appel aux services du département. Souvent, ce sont les enfants aussi, qui font les démarches. Comment je fais ?
Alors, la première chose, si c'est une petite commune, ce n'est pas réducteur, est éloignée, c'est un village. Il y a un CCAS, il y a aussi le Centre communal d'action sociale. Le département, ça n'est pas le CCAS. Le président du CCAS, c'est le maire.
C'est le maire, tout à fait.
Nous avons un dispositif qui s'appelle l'Union départementale des CCAS, donc financé, accompagné par le département pour aider les CCAS. Et je suis actuellement la mise en place du schéma de l'action sociale pour une bonne coordination entre les CCAS, quand il y en a, sinon c'est secrétaire de mairie, l'adjoint aux affaires sociales, qui va travailler avec notre maison des solidarités de proximité. Et il y a tout un travail pour faciliter, pour qu'il y ait une lisibilité au niveau du territoire, lisibilité auprès des familles, afin de faciliter les démarches.
Et les accès, parce que c'est vrai que ces personnes souvent sont perdues. Sont un peu perdus et se disent comment on fait, il se passe rien, mais non, il se passe des choses, connaître.
Il faut connaître. Alors d'où aussi ce site internet qui est vraiment qui a été vraiment mis à jour et qui facilite les démarches.
Et pour l'instruction des dossiers, est-ce qu'il y a pour l'instruction de ces dossiers, une fois qu'on a fait la demande, l'objectif ou alors c'est satisfaisant ou est-ce qu'il faut essayer de rétrécir l'instruction des dossiers ou c'est quelque chose qui fonctionne bien?
Alors les volumes augmentent. Nous essayons de raccourcir le délai de réponse. Vraiment là, il y a une réorganisation au sein de nos services et le président Mesquida a mis des moyens supplémentaires, des moyens humains. Nous renforçons nos équipes
administratif.
Parce que il y a des au niveau de national, nous ne sommes pas de mauvais élèves non plus au niveau des délais de réponse. Mais nous y sommes, nous sommes dessus. Nous sommes en train de travailler sur, sur l'accès direct des familles. On essaie de donner des réponses aussi maintenant, qu'il y ait un accusé-réception, dossier compilé.
Oui, le suivi n'est pas du dossier, compilé,
un dossier peut se perdre, donc voilà. Mmh. Et puis, au niveau des réponses, nous allons aussi sur des réponses de prestations longue durée où on est en train d'améliorer aussi. Il y a des personnes qui n'auront pas besoin de refaire la demande en ce qui concerne le domaine du handicap.
Pas renouveler à chaque fois le dossier. D'accord.
Et nous allons, nous essayons vraiment, nous y sommes là, nous sommes en train de travailler là-dessus. Ce que je voulais dire au niveau de l'APA, la personne, la famille dépose un dossier d'APA, d'allocation personnalisée à l'autonomie, pour avoir un plan d'aide qui va permettre à la personne d'être accompagnée dans les gestes.
Assistante sociale hein, aussi, il y a des étapes.
Oui, alors voilà, il y a la demande, elle arrive au département, elle est complète. Il y a un rendez-vous qui est pris auprès de la personne par nos équipes pluridisciplinaires. Alors pluridisciplinaires parce que maintenant il y a l'aidant qui est pris en compte dans l'accompagnement. L'aidant, c'est très important.
Par exemple, les enfants avec leurs parents, par exemple.
Hein, ou un membre de la famille. Donc une fois que c'est fait, une fois que c'est rempli, la visite a lieu à domicile. On va évaluer la perte d'autonomie, c'est le GIR de 1 à 5. Donc et en fonction de l'état de la personne, un nombre d'heures va être proposé. La personne va devoir répondre si elle est d'accord ou pas. Alors, il n'y a pas de recours sur succession sur cette aide-là. Tout le monde peut faire la demande. D'accord. Et en fonction des revenus de la personne, elle participera
en fonction de ses moyens.
Voilà. Et ensuite, il y a tous ces services d'aide à la personne que nous accompagnons également au niveau du département. Mais il peut s'agir d'un gré à gré, c'est-à-dire d'une personne connue par la personne qui en fait la demande.
Voilà. D'accord. Hein? Donc, on voit vraiment que c'est de la dentelle, quoi.
Il faut aller dans chaque foyer.
Donc, c'est ce qui peut expliquer aussi qu'on prenne le temps, quoi.
30 000 demandes d'APA. Oh. Il y a quand l'APA a été mise en place, il y a eu tout un volume de personnes à accompagner. Mais après, il y a les révisions parce qu'il y a une perte d'autonomie.
Il y a une évolution.
Mmh. Et là, il faut faire un...
Il faut réévaluer.
Alors là, on a simplifié aussi. On est en train de simplifier pour que ça se passe rapidement. Parce que là, à ce moment-là, cette deuxième partie, la personne est quand même plus fragile.
Mmh. Oui. Donc c'est là où on décide
de
la placer des
du
fois
maintien à domicile
maintien à domicile ou placer dans des établissements spécialisés
comme aide à domicile, donc aide humaine, aide technique.
Donc en fait, on comprend en vous écoutant que le département, il est essentiel pour s'occuper des personnes âgées.
Alors je dis toujours qu'il y a le premier cercle de la personne si elle n'est pas toute seule, c'est la famille.
La famille, oui.
Et ensuite le département est un filet de sécurité. Il vient compléter et autres collectivités comme certaines maisons de caisses de retraite. Hein,
il y a les caisses de retraite, il y a beaucoup de partenaires, je comprends. Voilà. Mais vous avez un rôle un peu clé. Vous êtes un peu le.
C'est une délégation à très haute responsabilité et je suis très attentive. Je travaille, je vais le dire, hein, 7 sur 7 et je suis à l'écoute 24 sur 24. On ne sait pas ce qui peut se passer.
C'est bien ce que je disais, vous êtes un peu occupée alors.
Très occupée pour une personne retraitée. Est-ce que c'est une question
Mais oui, c'est vrai. Quand l'heure de la retraite sonne, n'est-ce pas, maintenant, avec vos responsabilités, ce n'est pas de la retraite que vous faites, vous. Hein, mais vous avez le droit de faire valoir vos droits à la retraite.
Oui, puisque j'ai été salariée. J'ai fait une demande de retraite pour carrière longue, puisque j'ai commencé à travailler très jeune.
Ouais.
Tout en faisant des études, j'ai commencé à l'âge de 17 ans et demi.
Donc,
carrière longue plus études en faculté en parallèle.
Études, carrière longue et puis après responsabilité politique
Et des enfants qui permettent également. Parce qu'à un moment, je faisais les deux en même temps. C'était difficile. En tant que femme et maman.
Ouais, femme, maman et femme engagée politiquement.
Engagée.
Ça fait du boulot.
Est-ce que, justement, on est en plein débat sur les retraites, puisque aujourd'hui nous sommes le 23 janvier, lundi 23 janvier. Le gouvernement présente en Conseil des ministres son projet de réforme de reculer l'âge de 62 à 64 ans. On a vu de fortes, très très fortes mobilisations historiques la semaine dernière. Une autre grande mobilisation est prévue le 31 janvier. Vous, quelle est votre analyse sur cette mobilisation et ce projet de société ? Est-ce que vous ne craignez pas aussi que ça fabrique de plus en plus de gens
pauvres ? Oui, alors c'est vrai que c'est une question à laquelle je m'attendais. Et je n'ai pas aujourd'hui toutes les... Elle, c'est pas affiné pour moi, il me manque des éléments. Mais ce que je dirais, enfin, je suis plutôt pour une liberté des personnes, c'est-à-dire que s'il existait un seuil de départ et puis ensuite la possibilité de... Il y a par exemple des personnes qui ont commencé à travailler à 17 ans.
Comme vous ?
Comme vous ? Comme moi. Et des personnes qui ont des... Il y a la pénibilité au niveau...
Du
travail.
Et puis d'autres qui ont fait des études longues et qui n'ont pas pu travailler avant. Et surtout avec actuellement, avec le Covid, tout ce qui est passé, les jeunes étudiants, ils n'ont pas pu travailler.
Donc, c'est dire c'est tout blanc, tout noir, comme ça, pour moi, c'est compliqué aujourd'hui. Je suis plutôt pour la liberté de pouvoir poursuivre ou pas. Il y a des personnes qui seraient très en difficulté si elles s'arrêtaient de travailler également.
Oui, écoutez, un choix plutôt individualisé, mais dans une structure collective quand même. Il faut bien qu'il y ait des règles.
Tout à fait.
Oui, mais... Puisque là, c'est la date...
Et je suis gênée par obligation comme ça. Il faut vraiment que ça soit très, très analysé, très affiné. Et donc, en ce qui me concerne, j'ai arrêté de travailler. Enfin, je suis à la retraite. J'ai eu mes droits à l'âge de 61 ans.
Oui, mais c'est logique, parce que vous avez raconté tout ce que vous avez fait.
Comment le dire en prévention du bien vieillir, avoir une activité est importante aussi. Mais c'est le choix, c'est chaque personne. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, tout à fait.
Et donc, moi, cette activité, c'est mon engagement, me donne beaucoup de travail.
Et on parlait du milieu associatif.
Aussi.
Beaucoup de personnes qui sont à la retraite s'engagent
fortement. On en a besoin.
Pour faire vivre ces associations, et notamment là que vous connaissez, dans le milieu de la solidarité, etc. Ou alors dans les radios associatives, par exemple.
Tout à fait.
Alors, écoutez, on va faire une petite pause. Si vous voulez bien, mesdames, et puis on revient vers vous pour la deuxième partie de cette émission Quoi de neuf, qui, j'espère, donne à réfléchir à nos auditeurs.
Find her big blue day. Stop.
Alors, on est de retour dans les studios de Divergence FM en plein cœur de Montpellier, en plein cœur du département. Enfin, non, c'est pas vrai. Le cœur du département, c'est plutôt du côté de Gignac, on va dire. Hein. Bon, donc, on est au cœur de Montpellier, la capitale, en quelque sorte. Et on est avec Patricia Weber, qui nous fait le plaisir de venir nous expliquer un peu mieux ces rouages de cet énorme structure qu'est le département de l'Hérault. On a parlé des chiffres du budget, ça donne le tournis, hein, 2 milliards, vous avez parlé. Hein.
Pratiquement
2 milliards d'euros à gérer et un volet très, très important dont elle s'occupe en partie, puisqu'elle ne peut pas s'occuper toute seule d'une telle chose. C'est donc la solidarité, hein, l'aide aux personnes. On a parlé de l'APA, on a parlé de tas de choses, de personnes en situation de handicap et on va continuer avec Françoise Bernat pour d'autres questions.
Oui, la semaine dernière, nous avons reçu au micro de Divergence les responsables du Socle populaire français de l'Hérault, que vous devez bien connaître.
Hein.
Ils nous ont fait part de l'augmentation significative des personnes aidées qui viennent frapper à la porte du Socle populaire, en passant de 23 000 à 27 000 personnes aidées.
C'est sur le département.
Sur le département de l'Hérault. Alors, est-ce que vous faites aussi le même constat de cette aggravation des situations de pauvreté et de précarité? Et quels sont un peu les profils
les femmes.
Et puis les réponses que peut apporter une collectivité comme le département?
Tout à fait. On le voit, c'est au niveau local, au niveau départemental, national. Il y a une augmentation de la précarité et elle touche de nouveaux secteurs, je les appelle les invisibles. Ce sont des personnes, donc on a par exemple un couple, et il y a un des deux qui travaille, il y a une des deux personnes qui travaillent, et elles se retrouvent en difficulté, ne peuvent pas payer leur loyer, etc. Donc oui, il y a de nouveaux publics, et là c'est on échange un petit peu avec les travailleurs médico-sociaux. Il y a effectivement
les associations,
bien entendu. Donc, on les accompagne au niveau du département, bien sûr. On essaie de les accompagner par le biais de subventions, ces associations, mais également quand on a des véhicules réformés, par exemple. On va offrir à une association caritative un véhicule. Et on en a offert qui ont permis, par exemple, de mettre en place des lieux d'écoute sur les cités universitaires.
On a vu les étudiants à quel point ils ont été en difficulté.
On l'a vu pendant le confinement, quand ils avaient du travail, quand ils travaillaient, par exemple, au McDo, je ne sais pas.
Oui, mais les petits boulots, comme on disait.
Les petits boulots,
mais important pour eux.
C'est très grave.
C'est important.
C'est vraiment... Donc là, oui, très attentif. Nous menons avec le national, donc il y a le plan pauvreté qui permet de s'intéresser sur ce plan aussi à tout ce qui est enfance, la petite enfance. Donc,
parce que ça pose des sacrés problèmes. Comment garder les enfants quand on est, comme tu disais, un couple, il y en a un qui travaille, l'autre qui s'occupe des enfants.
C'est à la crèche que commence le dépistage, la vigilance sur la précarité.
Puisque le département, c'est vraiment de la petite enfance jusqu'à vraiment
jusqu'à la fin.
Service PMI, protection maternelle et infantile. Et là, il faut faire très attention. Donc, je suis également engagée auprès de cela. J'ai été membre pendant 5 ans du Conseil national de la lutte contre les exclusions. J'ai travaillé donc avec toutes ces associations au niveau national qui sont déclinées sur le département. Et donc, nous sommes attentifs également à les accompagner, à améliorer la réponse. Et donc, le schéma de l'action sociale, est un travail qui se fait en partenariat avec...
Oui, donc un schéma, c'est pour mettre en...
C'est une feuille de route.
Une feuille de route avec aussi une cohérence entre les différents acteurs.
Oui.
Ce qui permet de ne pas empiler forcément les dispositifs, mais de les mettre en musique pour qu'on puisse aider et être au plus près des besoins.
Savoir qui fait quoi, à quel moment, quel public, et se coordonner.
Et
être lisible et que les personnes sachent à qui elles doivent s'adresser et
comment.
Et
c'est nouveau public, comme vous dites.
Alors, ce schéma d'action sociale n'est pas une obligation pour le département. Les schémas obligatoires sont le schéma de l'autonomie et le schéma enfance et famille. Et donc,
Il est volontariste.
Il est volontariste, c'est une volonté de Kléber Mesquida qui m'a reçu dans son bureau l'année dernière. Il m'a dit, voilà, je souhaite qu'il y ait de la lisibilité. La crise économique, les suites Covid, etc., les difficultés croissantes.
Et l'inflation qui vient s'ajouter. Hein.
Voilà. Et donc les schémas, nos schémas, je vais présenter bientôt à l'Assemblée, donc le schéma de l'autonomie, le schéma de l'action sociale. Et donc nous devons également être attentifs afin de répondre aux enjeux majeurs qui sont liés à la transition écologique et énergétique.
Parce que nous
vont arriver d'autres problèmes. Dans un EHPAD, par exemple, augmentation du coût au niveau de l'alimentation, au niveau des dépenses. On va pas, il est hors de question que nos personnes âgées aient froid. Donc, c'est comme ça. Ça va être, il va falloir intégrer ces nouvelles charges dans nos réflexions, accompagnement. Voilà.
C'est d'autant plus important parce que vous parlez de l'alimentation et de la hausse des prix. On voit certains prestataires privés, pas les régies au niveau des départements ou des communes, qui, dans les cantines, enlèvent un ingrédient maintenant.
Oui.
Donc, faut souhaiter que dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, on n'en arrive pas à ces extrémités.
Il y a des réflexions à avoir sur comment grouper les achats au niveau de l'alimentation, comment négocier les prix. Enfin, je dis ça
comme
parce que
vous parliez des collèges, puisque le département est en charge des collèges.
Oui,
il faut mieux grouper.
Donc, oui, ça existe dans le Gard. Je crois que le Gard fait ça aussi. Il y a une coopérative.
Il va falloir actionner tout cela.
Oui. Alors, un des effets aussi de la crise sanitaire que nous avons traversée, de la crise économique, c'est les tensions dans les familles et notamment les violences intrafamiliales. Le département aussi étant normalement mobilisé sur ces questions-là, est-ce que vous pouvez nous dresser à la fois un bilan de ce qui a été fait et des perspectives, si je puis dire ?
Tout à fait. Donc, toujours dans une politique volontariste, en lien avec l'État.
Oui, c'est pas votre compétence directe, on est bien d'accord.
Non plus. Donc, c'est un dossier, un sujet que je suis étroitement et avec vraiment beaucoup d'attention. Donc, le département a mis en place dans les commissariats et gendarmeries des postes d'intervenants sociaux, donc les ISCG, intervenants sociaux, commissariats, gendarmerie. Avec le président du département, nous allons d'ailleurs rendre visite à ces cadres qui accueillent en gendarmerie ou en commissariat, donc qui sont également à proximité, parce qu'il ne faut pas être trop loin lorsqu'il y a des personnes qui ont ce type de problème. Ensuite, donc ça c'est un engagement financier, un accompagnement. Il y a également eu le 25 novembre, de la journée des violences intrafamiliales, la mise en place de l'observatoire. Donc un observatoire également financé sur le poste de coordinatrice de cet observatoire pour pouvoir faire un bilan du département, un bilan des demandes, un bilan des territoires, un bilan de l'accompagnement global.
Et c'est partout.
Ça se passe avec l'État, avec la Caisse d'allocation familiale et
aussi
avec le département. Volonté, et ça s'est passé au département de l'Hérault.
Et puis dans tous les milieux, comme on disait, c'est pas
limité. Ah non, ça touche tous les milieux, tout à fait.
C'est incroyable, on s'imagine toujours la misère, etc. mais ça peut toucher des tas de milieux très différents. Et puis cette violence à l'intérieur des familles, qu'est-ce qu'elle est difficile à voir ?
Protéger la personne, souvent des femmes.
La victime,
Il y a également les enfants les témoins.
Enfants.
C'est aussi une notion grave. Et donc, c'est un sujet que je ne lâche pas également avec le président du département et mes collègues à l'Assemblée.
Les forces de l'ordre et la justice,
en comité de pilotage en préfecture, donc préfet, les différentes forces de police, les représentants des associations que nous accompagnons également budgétairement pour aussi répartir l'accueil. Et puis, ce sont des professionnels. Elles ont aussi, elles mettent à disposition leur expérience.
Oui, dans l'accueil, dans l'hébergement. C'est la question de l'hébergement est quelque chose de très, très, très important.
Également. Donc, encore du travail. Il faut progresser sur l'accueil, sur la mise à l'abri, évidemment.
Oui. Alors, Là, c'est vraiment fondamental, puisqu'on sait très bien que souvent, c'est récidive. Hein.
Tout à fait. Là, au niveau du département, c'est demain ou après-demain, avec, en présence du secrétaire général de la préfecture, je vais animer le comité de pilotage du plan départemental d'aide au logement des plus démunis, oui. Le PDLHPD, c'est ainsi qu'on l'appelle. Et j'espère que là, on va également avancer sur la mise à l'abri, l'accueil de familles en difficulté, avec des spécificités.
Voilà. Mais c'est ça toute la difficulté. C'est ça la difficulté, c'est d'abord de pointer, de trouver, d'aider. Il faut d'abord avoir l'information. Qui est très difficile à obtenir, n'est-ce pas, madame la journaliste?
On s'est fait l'écho de la création de l'Observatoire. Il y a aussi, ce qui est important, c'est au niveau de l'information, savoir à quelle porte on peut...
Également, aller. Donc, voilà. Police, gendarmerie, association, mais également sur les CCAS, il y a tout un accompagnement.
Et on peut trouver ça sur le site du département.
Oui, tout à fait. Oui, oui.
Une cartographie.
Oui, oui. Et puis cet observatoire, donc, va être aussi... Enfin, ce sont des chercheurs qui vont également... travailler et puis voilà
tout à fait pour accompagner l'université Paul Valéry.
Oui, tout à fait,
c'est l'université Paul Valéry.
Il faut bien comprendre pour vraiment être efficace,
pour savoir ce qu'on dit, n'est-ce pas, il faut mieux savoir de quoi on parle, comment
voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Dans tous les domaines.
Ouais, c'est vrai ça. Il y en a qui le font pas, toi après, mais nous parlons pas d'ici, hein, nous parlons d'autres endroits, hein, oui. Où des fois on parle avant de savoir.
Voilà. J'aimerais qu'on revienne sur la construction du schéma départemental de l'autonomie.
Oui.
Vous l'avez brièvement évoqué. Il va être donc, il va quand même porter sur la période 2023-2027, si je ne me trompe pas. Alors déjà, nous rappeler l'objectif de ce schéma. Il concerne qui ? C'est à la fois les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.
Tout à fait. Donc un schéma, c'est donc une feuille de route pour travailler sur le nouveau schéma, un état des lieux de ce qui a été fait.
Ce qu'on a vu, oui.
Voilà, ce qu'on vient de dire. Donc un travail en concertation. Alors tout d'abord au sein du département avec les professionnels, les agents. Ensuite les associations, ensuite les partenaires. Et puis regarder ce qui a été... rendu auprès de la population.
Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qui fonctionne bien ? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien ?
Sachant qu'il y a des secteurs comme l'enfance en situation de handicap où les établissements sont souvent portés par l'État, l'ARS. Donc il faut que les ouvertures se passent à ce niveau-là. Donc un schéma, ce n'est pas répondre tout seul à tout, c'est aller interpeller d'autres responsabilités, d'autres responsables, et c'est le cas. C'est un schéma donc qui va permettre aussi d'améliorer, où on va proposer d'améliorer l'aide aux aidants, la prévention, parce que les aidants, on sait qu'il y a un nombre supérieur, un grand nombre d'aidants partent avant la personne aidée. Donc là, c'est pas possible,
L'usure,
c'est pas entendable. Donc des mesures d'accompagnement qui vont être renforcées, des ouvertures de places, elles sont en train d'être analysées. Donc, et puis, rappeler à l'État, comme vous le disiez au début de l'interview, ses engagements financiers.
J'imagine qu'on peut déjà, dans ce schéma-là, il y a un côté prospectif, 2027, c'est-à-dire de mesurer les besoins à venir. Vous parliez de 30 000 dossiers à part.
Ah, oui, alors donc justement.
On sait que dans 10 ans, il y en aura
tout
X,
à fait.
X.
Ce sont des chiffres que je n'ai pas là donc, précisément, mais nous les avons en cours d'analyse, c'est-à-dire que là, la situation est préoccupante.
Et donc, en regard, il faut mettre les besoins humains et les structures. Et là, vous dites préoccupante, c'est-à-dire
Une augmentation des demandes, au niveau surtout de l'APA, au niveau du domicile, puisque,
pour les personnes qui préfèrent rester à domicile le plus longtemps possible.
Et puis, tout mieux. Ce qui s'est passé, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les difficultés au niveau des EHPAD, il y a eu un moment, alors, entre l'après-Covid et tout ce qui a été fait d'un point de vue médiatique, on a eu des établissements avec des lits vides. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des lits vides ? Il y a donc des baisses de budget et il y a donc moins de personnel. Puis après, quand on va chercher le personnel, c'est là qu'il y a de nouvelles difficultés d'attractivité. Alors, la vie en EHPAD n'est pas de tout repos, niveau de l'accompagnement.
C'est vraiment complexe.
C'est très complexe.
C'est très complexe. Ça met beaucoup de partenaires en même temps. Et puis, il y a la tension économique.
Oui, tout à fait.
La tension économique qui fait qu'il y en a, ils regardent des chiffres, ils disent, ça va pas.
Cette tension, on va le retrouver en milieu hospitalier, au niveau des
infirmières et des aides-soignantes.
L'accompagnement au niveau des enfants et aussi des établissements qui accueillent les enfants. Donc, préoccupation.
Et puis la relation avec l'éducation nationale au sens très large du terme.
Si vous le permettez,
je voulais vous poser la question justement sur l'accueil des enfants.
Au niveau du schéma, qu'est-ce qu'on a constaté ? Donc il y avait bien sûr des retards, une augmentation de dossiers des enfants qui ont besoin d'être accompagnés d'un point de vue humain ou technique lors de la rentrée scolaire.
Exactement.
Donc il y a des enfants qui n'ont peut-être pas reçu à temps leur plan d'aide.
Et puis, ça demande du personnel.
Tout à fait. C'est ça. Et alors, donc, un travail qui se resserre avec l'éducation nationale. Là aussi, c'est une constat amélioration. Et c'est ce qu'on est en train de travailler.
Oui, parce que le département, on rappelle, il a son gros volet aide sociale. Puis, il y a le volet aussi construction des collèges. Vous parliez du collège qui va être construit à Juvignac.
C'était en off tout à l'heure. Merci. Justement, ça veut dire qu'effectivement, on peut perdre une élection municipale, mais ça ne veut pas dire que l'on tourne le dos à la commune. Et qu'est-ce qui a été fait tout de suite après ? Eh bien, c'est l'accompagnement au niveau... Alors, il y a eu une crèche qui a été rénovée. Le département est intervenu. Parce que là, nous avons un travail aussi avec Cyril Meunier, deux conseillers départementaux qui s'intéressent au projet des communes. Et il y a également ce collège qui va ouvrir en 2024. Et là, c'est une volonté du département. Et nous avons fait, avec Cyril Meunier, je le rappelle, un gros travail auprès de notre collectivité pour que ce projet aboutisse.
Oui, parce qu'aujourd'hui, les collèges, ce n'est plus les collèges d'il y a 40 ou 50 ans. Ils sont inclusifs aussi.
Tout à fait. Et j'y veille, puisque c'est ce que j'ai...
Délégation.
Merci. Oui, c'est tout à fait. Et c'est ce que je disais lors d'un article que j'ai... écrit pour le bulletin municipal, c'est-à-dire une attention particulière aux classes Ulysse et aux enfants.
Ulysse, on rappelle que c'est pour accueillir des enfants
en situation de handicap. Veiller à l'amélioration de cet accompagnement.
Pour que l'école accueille tout le monde.
Voilà. Oui, une école pour tous.
Oui, mais alors là, on comprend très bien la difficulté parce que ça demande du personnel et du personnel spécialisé.
Oui, ce n'est pas le département qui va embaucher.
D'où un travail avec l'éducation nationale renforcée, puis avec mon collègue et ami Renaud Calva.
Ah oui, on connaît bien.
ces dossiers, nous travaillons vraiment ensemble avec beaucoup de sérieux, de complicité.
Oui, Renaud Calva, nous l'avons reçu, vous vous rappelez, au mois de novembre. Novembre. Après, nous avions eu son collègue de Clapier.
Oui.
Alors,
je les côtoie à la métropole également, puisque je suis conseillère à la métropole. Donc je travaille davantage avec le bailleur social, avec ACM, et puis j'ai intégré Altemed, qui est une fusion. Donc je travaille avec les bailleurs sociaux, le bras armé du département qui est Aérologement. Je siège à Aérologement et sur le côté ville et
puis
et
au
métropole.
Niveau culturel, n'est-ce pas ? Vous avez aussi cette vision avec le département, bien entendu. J'avais oublié, on a reçu aussi M. Laforgue de Castelnau, qui lui, au niveau logement, c'est très très important dans sa commune.
Tout à fait. Puis qui dit logement, dit accompagnement et
logement
services.
Sociaux, on a parlé avec lui des logements sociaux, etc. Oui. Donc on a reçu pas mal de maires, vous voyez.
Oui, j'ai vu, je vous suis. Et j'admire votre nouveau modèle.
Le site. Merci beaucoup.
Oui, je voulais vous dire.
Bon, alors Françoise, il nous reste une dizaine de minutes.
Vous avez parlé de quelque chose d'assez intéressant. Enfin, assez intéressant. C'est le rapport aux communes. On sait qu'aujourd'hui, sans les départements, les communes qui sont vraiment dans des situations très complexe au niveau budgétaire, encore plus cette année. Il y a ce qu'on appelle dans les départements l'aide aux communes. Certains y voient des mauvaises langues une forme de clientélisme. Vous venez de prouver par A plus B que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, en tout cas, puisque c'est l'intérêt général avec ce collège. Vous auriez pu vous en détourner. Mais aujourd'hui, le département lui-même doit assumer des compétences majeures, répondre à de plus en plus de besoins. Et il y a cette aide aux communes qui est quand même indispensable. C'est quoi votre vision du rapport département-commune, sachant que vous êtes conseillère municipale, conseillère métropolitaine, ce qui vous permet aussi d'avoir une cohérence dans pour mener vos mandats et vos missions, et conseillère départementale. Quelle est votre vision de ça ?
Alors, le département a des contraintes budgétaires comme partout, et le président du département a souhaité que l'aide aux communes, que les lignes ne bougent pas et qu'il n'y ait pas de diminution de ces aides, les communes étant une priorité. Alors, on le voit peut-être moins sur la métropole, mais quand on va sur l'arrière-pays, cette aide aux communes, elle est très, très importante.
C'est primordial.
Elle va permettre on va mettre en place, on va accompagner des équipements sportifs, routiers, on va aider aussi les associations. Enfin, là, c'est autrement.
Même
c'est
un emploi pour plusieurs communes.
Également, d'accompagner un projet intercommunal. Voilà, sur Saint-Jean-de-Védas, ça va être la rénovation énergétique des écoles. Ça sera pour ce samedi.
Avec l'aide donc du département.
L'aide du département. Il y a la rénovation du terrain de tennis.
De tennis, oui. On en a parlé avec M. Rio.
Le terrain de tambourin à La Vérune. Il y a les rénovations du parc pour la culture.
Et qu'on parlait de la culture.
Tout ce qui est travaux. On va s'intéresser aux projets vraiment communaux et qui vont toucher au plus près la population.
La vie quotidienne.
La vie quotidienne, être au plus près et aller vers.
Et puis pour aider les gens, c'est pas que aider les gens avec de l'argent, c'est aussi leur proposer des choses. On peut parler avec Eric Pinceau de la culture, comme c'est important aussi, l'accès à cette
culture.
Pour qu'il
y ait accès à la culture, il faut quelquefois rénover la salle de spectacle.
Tout à fait.
Et c'est là que nous allons intervenir. Voilà.
Ou le sport.
Tout ce qui va permettre à la population de vivre, de se rencontrer, d'oublier les problèmes.
Voilà. Oui, c'est en fait, vous parlez du service public, service public de proximité, qui est quand même assez malmené, on va dire. Donc vous, au niveau, on a parlé de l'exercice budgétaire. Cette année encore, le département va faire un effort budgétaire assez conséquent. On peut rappeler ce que vous nous disiez en début d'émission, un budget qui va avoisiner les 2 milliards.
Oui.
Dont, on va dire, RSA compris, à peu près 900 millions pour tout ce qui est aide sociale.
L'autonomie, action sociale en ce qui me concerne, 644.
La moitié, en gros.
En gros, c'est la moitié.
Ouais, je dis que c'est le budget, c'est une action vers les gens, s'occuper des personnes. C'est ce que fait le département.
C'est ce que vous faites aussi, Patricia.
Oui,
Weber.
Je sais.
je crois.
Merci de me le rappeler.
Voilà. Est-ce qu'on peut connaître un peu l'agenda des prochains jours et des prochaines semaines de Patricia Weber ?
Ah oui, demain mardi, je vais donc être sur le conseil d'administration et attribution logement des relogements.
Et vous serez sur Divergence FM à midi, sera rediffusé.
Sur le conseil d'administration des relogements, on va parler de la résidence autonomie qui est en construction face à l'établissement à la maison de retraite Péridière. Résidence autonomie pour les personnes âgées plus...
moins dépendante.
Voilà. Avec, c'est aussi multiplier l'offre d'accueil.
Oui, tout à fait.
Et puis mercredi, nous allons inaugurer le nouveau siège de la CAF à Béziers. Et puis l'après-midi, je vais animer avec le secrétaire général le fameux plan départemental logement aux personnes les plus défavorisées.
Ça fait une journée en gros.
Ah oui, oui. Et puis vendredi, je vais travailler sur le schéma de l'action sociale. Samedi, je vais à l'inauguration de tout le volet énergétique des écoles de Saint-Jean-de-Védas.
D'accord.
Voilà, ça c'est pour cette semaine. Mais entre tout cela, il y a les réunions techniques de préparation.
Au département aussi.
Au département. de préparation donc du fameux, des deux schémas, et puis je prépare la présentation du budget.
Ah oui,
c'est énormément de travail.
Voilà, je voulais qu'on voit que les auditeurs prennent mesure un peu la semaine d'une vice-présidente avec cette responsabilité là, qui est très importante. Et j'aimerais que vous nous disiez un mot de vos équipes.
J'allais le dire. Et voilà,
c'est-à-dire, le service public, ce sont des agents.
Tout à fait.
Alors, vous parliez de l'attractivité, mais ça a du sens aujourd'hui de travailler pour une collectivité. Donc, vous êtes entouré...
De 300 personnes pour la maison départementale de l'autonomie. Je travaille vraiment de façon très proche avec les équipes.
300 personnes, c'est... J'aurais jamais pensé 300 personnes.
Juste l'autonomie. Puisque, bon, ancien cadre des solidarités, je suis très attachée aux réunions de travail et aux échanges. Mais cela me permet également, comme tout à l'heure, j'avais des personnes en direct qui me demandent, on me joint en direct souvent pour un dossier.
Oui, vous êtes très accessible.
Oui, mon portable est connu en général. Mais comment je fais ? Donc, je travaille avec le cabinet du président, avec les chargés de mission thématiques en fonction de tout ce que je dois vite. Moi, je suis organisée, il faut répondre, apporter une réponse. Ça ne veut pas dire la solution. Le dossier est entendu.
Et envoyé vers un autre interlocuteur.
Voilà. Si on répond trop vite, ce n'est pas forcément une bonne réponse. Je préfère que tout soit analysé. Et ensuite, je travaille vraiment avec toutes les équipes de la délégation, direction des solidarités. Et puis, avec mes collègues de la culture, avec mes collègues de l'insertion, petite enfance, on se croise sur nos schémas. Comme j'ai travaillé avec Jean-Luc Gély sur... le schéma du tourisme, schéma départemental du tourisme, parce qu'il y a l'accessibilité aux personnes, concernant les personnes en situation de handicap. Donc, tout un travail en plus avec mes collègues.
C'est ce qu'on appelle la transversalité entre les services.
Alors, mesdames, autour de cette table, on ne s'ennuie pas, mais il nous reste 2 minutes. C'est ça, la radio. Mais enfin, non, ce n'est pas ça, la radio, parce que sur Divergence FM, c'est quand même 1 heure.
C'est une belle heure. C'est en toute simplicité. On se sent à l'aise avec la préparation, les questions. Et c'est un plaisir d'être revenu vous voir.
Eh ben, on est content.
Sur ce nouveau format.
Voilà.
Et personnellement, je vous souhaite vraiment, ainsi qu'aux auditeurs, une très belle année.
Et on souhaite une belle année au service public départemental.
Ah ouais, voilà. Et puis, on souhaite des belles activités aux retraités.
Aussi les saluer, et puis les bénévoles, les personnes au niveau de la culture, du sport et tout cet accompagnement.
Donc, écoutez, un message d'espoir d'abord.
Oui.
Un message d'espoir dans ce monde dur, il est difficile ce monde, c'est un peu anxiogène souvent. Il faut aussi pas dire toujours ce qui va mal, mais des fois ce qui va bien.
Je voudrais encourager quand même les personnels des EHPAD, des hôpitaux, tout ce personnel soignant qui est à l'écoute. Voilà, également une pensée, beaucoup de respect pour ces métiers, ces professionnels investis.
Et là aussi, quel sacerdoce, comme je le disais pour vous, c'est vraiment, c'est plus qu'un métier, c'est vraiment, il faut vraiment le vouloir. C'est pour ça que c'est difficile de trouver du personnel aussi.
Tout à fait.
Parce que c'est tellement un investissement hors de la fiche de paye.
On ne rentre pas chez soi le soir avec l'esprit vide, comme je ne rentre pas chez moi le soir avec l'esprit vide. J'ai toujours quelque chose et des réponses à apporter.
Françoise, Patricia, merci.
Merci
beaucoup, infiniment. Merci à vous.
Et tout cela,
Françaises, Français,
c'est grâce à vous.
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA a espionné aussi l'Union Européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
La présidence de la République, ça n'est pas un radio-crochet.
Ça, c'est une autre façon de faire de la politique.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Alors, quoi de neuf, quoi de neuf, quoi de neuf.